Donc avocat et juge, un couple infernal, c'est la question qui se pose à nous. Alors il est sans doute nécessaire, je pense, de commencer par comprendre au moins pourquoi l'on peut assez facilement qualifier ce couple, juge-avocat, d'infernal. Pourquoi le faire ? Couple étrange ou étrangement ordinaire, dans lequel chacun devrait composer avec l'autre pour le pire et sans le meilleur, en quelque sorte. Et de fait, il est assez facile, me semble-t-il, de donner quelques justifications à cette sombre entrée en matière. Couple infernal. Bien sûr, je force le trait. Plaçons-nous du point de vue de l'avocat, et je pense que tout ce que je dirai là sera corrigé par la suite. Je ne fréquente pas les prétoires tous les jours, mais seulement les salles de classe. Alors, avocat contre juge. Imaginons donc l'avocat contre le juge. Du point de vue de l'avocat, la sentence du juge pourra peut-être être source de déception, d'incompréhension, mais surtout, l'esprit de corps et peut-être d'école est dans. On peut comprendre peut-être pourquoi l'avocat aura tendance à déceler dans l'attitude du juge comme un malin plaisir, plaisir maléfique donc, à passer à côté de ce que l'avocat n'a cessé de lui montrer pourtant avec force argument. En ce sens, ce qui est le plus dommageable aux yeux de l'avocat, c'est le fait que la sentence, peut-être, la décision du juge, tombe avec la même imprévisibilité et le même arbitraire, au fond, qu'un oracle. La décision du juge se confond alors avec l'arrêt, mais au sens de l'arrêt des dieux, qu'il s'agit au fond de constater seulement et dans sa facticité la plus nue. Ça, ce serait donc l'avocat contre le juge. Retournons les choses. Le juge contre l'avocat. Le juge, quant à lui, aura peut-être tendance à ne voir dans les paroles de l'avocat qu'une sorte, disons, de rhétorique unilatérale et systématique, et en cela peut-être agaçante et terriblement prévisible pour le coup. Incapable d'embrasser, et ce de manière structurelle, parce que l'avocat n'assiste par définition qu'une partie, incapable d'embrasser donc la totalité du procès. Le juge pourra peut-être en venir à cette idée, malheureuse peut-être, que l'avocat ne connaît pas grand-chose et ne peut pas connaître grand-chose de l'art et de la responsabilité de juger. Ainsi, une certaine inimitié corporative n'est pas à écarter a priori entre les deux. Et je ne fais pas mention ici, ou sinon rapidement, mais ça a sans doute tout son poids, des considérations économiques, statutaires, honorifiques, peut-être mimétiques entre les deux. De fait, nous sommes habitués par le cinéma américain notamment avoir mis en scène cette tension entre le juge et l'avocat. En effet, le cinéma américain aussi souvent entre la figure de l'avocat héros au service de l'innocence bafouée de son client contre une institution corrompue dont le juge peut être la partie émergée. Et au contraire, la figure diabolique de l'avocat qui passe par les armes froides et implacables de la procédure et du droit positif pour faire triompher l'injustice, peut-être même le crime, face à une institution juste, sans doute cette fois, mais démunie. Je pense, là j'étais presque obligé d'y penser à ce moment-là, mais à ce film un peu étrange qui s'appelle L'Associé du Diable, je ne sais pas si vous connaissez, L'Associé du Diable, en anglais c'est The Devil Advocate, c'est-à-dire l'avocat du diable en réalité, où Al Pacino joue le rôle d'un éminent, directeur de cabinet pénaliste, et il se trouve qu'il n'est autre que le diable en personne. Et l'idée, c'est qu'au fond, par le droit même, le mal pourrait régner justement d'une façon parfaite. Il s'agirait de disculper les crimes de façon à ce que le crime lui-même puisse régner en maître, et ce donc par le droit. Pourtant, il ne convient pas de regarder, disons, c'est ce qui pourrait apparaître comme des poncifs ou des préjugés, avec dédain, me semble-t-il. Parce que tout ce que je viens de dire là, même si c'est éminemment caricatural, c'est sûr, me semble témoigner maladroitement, sans doute, mais d'une dimension au fond très profonde du problème qui nous retient ce soir et que l'on peut rendre par l'adage imparable, latin, corruptio optimi pessima, la corruption de ce qu'il y a de meilleur et la pire. Or, on le sait bien, le juge et l'avocat ont à connaître, d'une certaine façon, le pire d'une société. Pour reprendre les mots que Maupassant place dans la bouche d'un avocat dans cette nouvelle qui s'appelle L'Assassin, qui s'intitule L'Assassin, l'avocat dit la chose suivante. Nous autres, dont les yeux sont grands ouverts sur le monde, qui vivons ici dans ce palais de la justice qui est l'égout de la société, où viennent échouer toutes les infamies, nous autres qui sommes les confidents de toutes les hontes, les défenseurs dévoués de toutes les gredineries humaines. Et au fond, le contact avec la vilenie peut contaminer, j'allais dire, les acteurs mêmes du procès. C'est ce que Maupassant fait dire à ce même avocat. Nous sommes les soutiens, pour ne pas dire les souteneurs, de tous les drôles et de toutes les drôlesses, depuis les princes jusqu'aux rôdeurs de barrières, nous qui accueillons avec indulgence, avec complaisance, avec une bienveillance souriante tous les coupables pour les défendre devant vous, nous qui, si nous aimons vraiment notre métier, mesurons notre sympathie d'avocat à la grandeur du forfait, nous ne pouvons plus avoir l'âme respectueuse, dit-il. Ici, l'auxiliaire de justice, l'avocat, devient le défenseur du crime et de l'arbitraire. Et par là, il propage la violence au cœur même de l'élément qui cherche structurellement à la juguler. Et c'est cela que j'aimerais mettre en valeur tout de suite. C'est que, précisément et par contraste, nous voyons bien, et je crois qu'il y a quelque chose qui est émouvant, j'allais dire, que la mission objective et objectivement impressionnante de la justice, institution humaine, avec tout ce que ça suppose d'imperfections et de difficultés pratiques. Donc, la justice humaine et le couple dont nous parlons, eh bien, ne doit pas, bien sûr, fermer les yeux devant le pire, elle ne le fait pas, mais en quelque sorte, elle va même accueillir cette réalité en son sein. Et en ce sens-là, Maupassant a tout à fait raison. Il s'agit bien d'accueillir le pire, d'une certaine façon, dans le sein même de la justice. De se laisser habiter par les conflits les plus vils, ou les plus insignifiants, les plus graves, ou les plus mesquins, qui rongent le corps social. Mais il s'agit de le faire pour tenter de leur donner, à ces conflits et à cette violence, de leur donner par la puissance de l'institution, de paraître à distance de toute violence brute et destructrice. Ça ne veut pas dire que le conflit n'est plus présent. Mais le juge, comme l'avocat, participe de ce tour de force. Faire reculer la violence au bénéfice de la parole. En permettant à la violence de paraître sous les traits de la parole conflictuelle, mais réglée, c'est-à-dire de la discussion. Bien sûr, on peut rappeler, avec Denis Salas et Paul Ricoeur, les moyens, je cite, par lesquels l'exercice du droit, en l'occurrence pénale, instaure l'écart entre la violence et la parole de justice. Alors on rappelle ces grands principes. D'abord, un tiers, non parti au débat, est qualifié pour ouvrir un espace de discussion. Deuxièmement, un système juridique sur lequel s'adosse cet espace de discussion. Et ça nous permet de réfléchir sur un point essentiel, c'est que dans le procès, tout n'est pas soumis à discussion. Le droit positif est là et il permet de structurer la progression de la discussion. Troisième point, le débat oral et contradictoire, qui fait droit à la raison juridiquement fondée, en tout cas on peut l'espérer. Il suppose donc une incertitude, ce débat. Incertitude première est reconnue comme telle. Parce que là où la certitude est déjà donnée, la discussion ne peut pas naître. Eric Weil, justement, dans un livre qui s'intitule « La logique de la philosophie », à tout un développement sur justement cette dialectique de la parole et de la violence. Et il nous dit justement à ce propos, je cite, « Aussi n'est-il aucunement surprenant que historiquement, la discussion commence devant le tribunal civil séculier. » La discussion commence devant le tribunal. Parce que, ajoute-t-il, là où la certitude n'est pas ébranlée, il n'y a pas de procès. Autrement dit, on a presque affaire ici à une définition de la dialectique, et là c'est, je dirais, le professeur de philosophie qui parle, mais une définition de la dialectique par le Socrate de Platon. C'est-à-dire une prise de parole courte et dialogique qui permet justement la recherche du vrai. Mais s'il y a recherche, c'est que la certitude n'est pas première. Il y a un espace pour que cette recherche puisse se déployer. Et enfin, le quatrième trait du procès, c'est que cette discussion et ce débat contradictoire est orienté par définition, structurellement, vers le jugement, la sentence, l'édiction du droit, des torts et des raisons de chacun. Il faut que raison soit dite. Le procès s'offre ainsi comme un moyen privilégié d'exorciser, de purifier les passions. Et là, j'aimerais revenir donc sur, pour parler de ce couple qui précisément, s'engage dans ce processus particulier qu'est le procès, j'aimerais vous livrer une réflexion du philosophe Alain qu'on trouve dans un texte difficile d'ailleurs à trouver qui s'intitule « De quelques-unes des causes réelles de la guerre entre nations civilisées ». Alors, c'est, à mon avis, un point, en tout cas, qui m'a, harponné quand j'étais en train de préparer cette communication. Voilà ce que dit Alain. À l'état pur, j'insiste là-dessus, j'allais dire à l'état chimiquement pur, il n'est pas en train de décrire ce qui se passe, mais il veut mettre en lumière ce que, j'allais dire, l'esprit objectif du procès. Peut-être que les hommes qui participent à ce processus ne sont pas à la hauteur de ce que ce procès objectivement implique. Mais il s'agit au moins de dégager cet esprit. Donc à l'état pur, nous dit Alain, celui qui revendique ne voudrait pas prendre. Prendre, ce serait, je dirais, violent en l'occurrence. Celui qui revendique ne voudrait pas prendre. Que veut-il ? Il veut seulement que son droit soit reconnu. Et d'abord, nous dit Alain, peut-être est-il d'ailleurs utopique là, mais je ne crois pas s'il s'agit bien de l'esprit objectif du procès, et d'abord que ses arguments soient écoutés et repoussés par argument. Il veut persuader ou être persuadé. Plaideur n'est pas nécessairement voleur. Ce que le plaideur cherche, presque toujours, c'est à faire connaître par d'autres que lui, ce qui lui paraît évident à lui-même. Cela ne veut point dire qu'il n'y mette pas de passion. On a bien affaire à une parole conflictuelle. Mais ce qu'il désire, ce n'est pas une victoire de force, c'est une victoire de droit. C'est un triomphe d'argument. Et de même, il serait disposé à reconnaître les raisons de l'adversaire si on les lui découvre. Tel est l'esprit d'un procès. Peut-être que subjectivement, les parties au procès ne le voient pas de cet ordre. Mais objectivement, la composition objective de cette discussion qui a lieu dans un processus de recherche du droit implique, je dirais, cette hauteur de vue. Tel est l'esprit objectif que l'institution, j'allais dire, insuffle. C'est la grâce de l'institution dans cette affaire. Tel est donc l'esprit objectif que l'institution insuffle et que les différents protagonistes doivent faire vivre, telle est leur mission. Car si les avocats assistent leurs clients, ce devrait être au fond en ce sens, et ils cherchent à le faire d'une certaine façon, pour transposer les passions en parole, en argument, devant un juge qui devrait savoir les écouter, en vue de déterminer le plus juste partage, ce qu'on nommera avec Michel Villet le droit. Alors ce point mérite d'être souligné, me semble-t-il, car il permet de revenir sur le sombre constat que j'ai dressé au début, de façon caricaturale, au début de cette prise de parole. Le but, selon l'esprit objectif donc, du procès, j'insiste, de l'avocat n'est donc pas fondamentalement et ne peut pas être d'entraver l'action du juge, comme lui-même pourrait peut-être d'ailleurs s'en convaincre. Mais il faut, et il doit plutôt, permettre de faire accoucher le droit par la puissance tissée de paroles de ses arguments échangés, sans doute avec passion. Ainsi donc, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'en lisant un article d'un avocat qui s'appelle Alain Weber, dans un bouquin « La justice, l'obligation impossible », c'est un recueil de conférences qui est assez intéressant, effectivement. Alain Weber nous dit la chose suivante, je cite, le juge ne peut pas s'affranchir de son obligation d'appliquer la règle de droit positive. Il ne peut pas faire semblant que le droit positif n'existe pas. Fût-elle d'ailleurs cette règle inéquitable en l'espèce ? Mais, nous dit Alain Weber, le juge parfois se rebelle contre le texte inéquitable qu'il a charge de faire respecter. Cette rébellion peut être spontanée, c'est-à-dire de son propre fait, mais, ajoute-t-il, et ça me paraît être le point clé, elle peut découler des arguments que lui a donnés l'avocat. Le praticien a ainsi, dans le cadre de son rôle de défense, l'obligation d'inciter le juge à se rebeller contre la règle de droit inéquitable. Il a aussi l'impérieux devoir de lui en donner les moyens juridiques. Et à défaut, nous dit Weber, ça je crois que c'est aussi un point essentiel, l'avocat, à défaut, portera une part de responsabilité dans le fait qu'il n'a pas pu empêcher la révélation de l'inéquitable. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que précisément, il s'agit d'une véritable collaboration objective, même si subjectivement tout ceci se passe dans la passion et parfois même dans le conflit, peut-être même le mépris ou que sais-je. Mais objectivement, il y a une collaboration de cet ordre. Et il s'agit au fond de tenter d'y participer et d'y collaborer. Simplement, je souhaiterais corriger Weber sur un point. Il ne faudrait pas penser que l'équité ne serait qu'au bout de la rébellion contre le droit positif. Il n'y a pas de raison de penser cet ordre-là. En réalité, l'équité ou le juste peut d'abord être dans la bonne façon de choisir et d'interpréter les textes positifs existants. De les choisir et de les interpréter de façon à ce qu'ils soient compatibles avec l'accouchement du droit. C'est ça finalement l'enjeu du procès. Si bien que, au terme de cette affaire, le juste apparaît comme, au fond, le bien commun du juge et de l'avocat, au service de la communauté, et ce, contre la violence, autant que faire se peut. C'est donc que le juge et l'avocat sont, objectivement, co-responsables d'un procès qui est plus grand qu'eux, en ce qu'il est objectivement, et devrait être subjectivement, au service de la détermination du juste. En réalité, ce qui fonde les relations entre le juge et l'avocat, c'est le fait qu'ils se trouvent pour des motifs impérieux, qui dépassent leur propre personne, en situation de, je reprends une formule d'Alain Weber, de concubinage de raison. Ça s'imposait puisqu'on parle de couple. Avec cette particularité qu'il s'agit d'un concubinage judiciaire. Alors ceci implique au moins de reconnaître l'impasse souvent présente, en tout cas quand j'étais étudiant en droit, je l'ai entendu énormément de fois, mais ceci implique de reconnaître une impasse que je trouve assez présente dans le droit français, je ne sais pas si on confirmera la chose ou pas. La double impasse qui consiste, 1, à opérer une première réduction de la logique juridique à la logique du seul juge. On a l'impression que le juste, la détermination du juste est l'affaire seulement du juge. Ce n'est pas le cas. On a affaire à un procès où, effectivement, l'avocat et les avocats sont partie prenante de ces déterminations. Avant que, dans un second temps, son propre raisonnement, c'est-à-dire du juge, ne soit ramené à une simple application formelle de la règle de droit général et abstraite au cas particulier et concret. Ce mot d'application, je dirais qu'il est le paradigme par lequel on pense le droit. Le juge ne ferait qu'appliquer la règle. En réalité, il doit l'interpréter, il doit la choisir, et il le fait au terme d'une discussion qui procède à un échange d'arguments. Et si on s'adonne, au fond, à ces deux réductions, il me semble alors qu'on pêche littéralement contre l'esprit du procès. En effet, une fois le procès ouvert, c'est bien par le contact conflictuel et dialogique des deux thèses des parties que le juge tiers impartial est bénéficiaire de la dialectique dont il constitue le troisième terme, va dégager, j'allais presque dire maïotiquement, la solution raisonnable, autant qu'il est possible de l'atteindre. Ainsi, et j'insiste là-dessus, le principal bénéficiaire du débat contradictoire alimenté par les droits de la défense des différentes parties, c'est bien le juge lui-même qui voit ou peut voir son jugement ainsi éclairé par cette discussion. Et ceci devrait alors peut-être, plus nettement, se retrouver dans le jugement final. Je vous soumets ici une proposition d'Anne-Marie Frison-Roche, qui est la suivante. La motivation d'un jugement doit être conçue comme la reproduction de la discussion antérieure, c'est ainsi que le destinataire peut admettre une décision qui lui est défavorable, parce qu'il la comprend, elle est motivée, en prenant acte de la discussion qui fut ainsi tranchée. Elle considère, au fond, alors là, là aussi, il faudrait voir, mais elle considère qu'en droit français, la motivation du juge n'est pas suffisamment fondée explicitement, d'une certaine façon, sur la discussion qui a eu lieu préalablement. Alors, je conclurai tout à fait en disant, finalement, que la bonne relation, au fond, la figure, je dirais, objective du couple avocat-juge me semble donnée par Shakespeare dans Le Marchand de Venise. S'il y avait une chose à retenir de ce que je vais vous dire, c'est de lire Le Marchand de Venise, au fond. Parce que je trouve que tout y est. Je fais court. Vous connaissez peut-être le dispositif. Shylock, le méchant, demande justice à la cour, en l'occurrence au doge de Venise, qui représente ici le juge. Shylock demande justice à la cour en brandissant un contrat, du droit positif donc. Un contrat qui a été signé en bonne et due forme entre Shylock lui-même et Antonio. Bien. Selon les termes positifs du contrat, Shylock peut demander légalement justice au tribunal, et en l'occurrence, il a le droit de lui demander une livre de chair d'Antonio lui-même. C'était signé, c'était dans les clauses du contrat. De fait, le contrat est, je dirais, légalement irréprochable. Antonio se retrouve dans une situation dramatique, le doge aussi, parce que il va, le doge en tout cas, comme juge, devoir rendre justice au nom du droit positif, mais précisément en atteignant dans sa chair l'un des administrés les plus irréprochables de la cité de Venise, Antonio. Autrement dit, ici, le droit positif est au service de l'injustice. Bien. À ce moment-là, intervient Portia. Peu importe d'ailleurs pourquoi elle intervient à ce moment-là, mais peu importe. Elle intervient et il me semble que souvent, on lui donne, quand on interprète cette pièce, le rôle du juge. Ce que je ne crois pas, parce que justement, dans l'acte 4 et dans l'acte 5, Shakespeare, donne explicitement le titre d'avocat à Portia. C'est assez intéressant parce que précisément, elle va développer, Portia, une argumentation à partir et fondée sur le droit positif pour essayer de faire triompher le juste. Je vous lis simplement la petite scène impressionnante. Portia, au fond, s'adresse à Shylock en disant « Une livre de chair de ce marchand t'appartient, la cour te la juge et la loi te la donne. » Alors Shylock se dit « Oh, le juge équitable. » Alors on dit juge, mais en tant qu'il, montre le droit. Et Portia continue « Et vous devez couper cette chair sur son sein. La loi le permet et la cour vous l'accorde. » Shylock est, aux anges. « Voilà une sentence, allons préparez-vous. » Il aiguille son couteau, il est proche. Le couteau s'avance vers le sein d'Antonio. Et à ce moment-là, ça fait référence à un passage de l'Ancien Testament, on entend l'ange qui dit à Abraham « Arrête !» Et c'est ça qui se passe. « Arrête un instant. » Ce n'est pas tout. Le billet, c'est-à-dire le contrat, droit positif, ne t'accorde pas une goutte de sang. Une livre de chair, mais pas une goutte de sang, ce n'est pas écrit. Le billet, donc, ne t'accorde pas une goutte de sang, les termes sont express, une livre de chair. Prends ce qui t'est dû, prends ta livre de chair. Mais si en la coupant, tu verses une seule goutte de sang, chrétien, les lois de Venise ordonnent la confiscation de tes terres, de tes biens, au profit de la République. Tu voulais, fonder ton action uniquement sur le droit positif. Mais j'allais dire, à droit positif ennemi, je vais jouer le droit positif contre le droit positif pour faire triompher le juste. C'est exactement le rôle essentiel du juge comme tel et de l'avocat. Parce qu'en l'occurrence, Portia donne la solution, si l'on peut dire, clé en main au doge qui n'a plus qu'à, l'avaliser. Autrement dit, et c'est vrai, ça fait trois fois que je dis que je vais terminer, mais je vous jure que là, cette fois-ci, c'est fait. L'idée me semble la suivante. Le doge juge en se laissant instruire par la discussion menée par les parties. Le couple avocat-juge peut alors devenir digne, ensemble, du discernement du roi Salomon, s'il fallait donner cette référence ultime. Mais il me semble que Shakespeare nous met en garde. Sans la figure de Portia, c'est celle de Shylock qui domine. Shylock est aussi une figure d'un avocat. Il défend aussi je dirais, sa partie uniquement à partir du droit positif tel qu'il l'entend. Si Portia n'apparaît pas, c'est Shylock qui dominera. Et à ce moment-là, effectivement, la justice peut sombrer dans le pire, elle peut favoriser le règne du mal et de l'injustice par le droit positif même. Autrement dit, Shakespeare semble nous dire que deux voies s'ouvrent toujours devant chaque juge et devant chaque avocat. Et aucune procédure ne pourra jamais en émousser la rigueur. Voilà, je voulais terminer par là. Et nous allons, laisser la parole à mes...
Mais vous me pardonnerez parce que je dois avouer que les micros, c'est pas forcément ce dont j'ai le plus l'habitude. Alors, je vais un peu enchaîner parce que j'ai été intéressé effectivement par cette parabole, celle du marchand de Venise. Alors, on peut effectivement peut-être s'intéresser du point de vue juridique à cette pièce en ce qu'elle peut aujourd'hui être regardée quand même comme avoir, indépendamment de l'excellence du canevas, certains relents un peu gênants, ce qui explique qu'elle est mal montée aujourd'hui et peu montée, parce qu'effectivement on y voit quand même précisément ressortir ce que tous les juges souhaitent éviter, c'est-à-dire ce qu'il y a d'antisémites et de préjugés, parce que quand on préjuge, par définition, on ne juge pas. Mais cela dit, cela me faisait penser finalement à ce que peut être l'office de l'avocat dans un procès, ce qu'est l'office du juge, en revenant à Shakespeare. On connaît tous... la très célèbre phrase, la très célèbre formule de Hamlet, « Être ou ne pas être, là est la question ». Dans une traduction plus récente, il y a quelques années, un auteur disait qu'en fait, cela avait été mal traduit. Et qu'en réalité, ce n'était pas « Être ou ne pas être, là est la question », mais la véritable formule était « Être ou ne pas, là est la question ». Évidemment, la virgule change tout et l'interprétation change tout, puisque être ou ne pas être, là est la question, et être ou ne pas, virgule, être, là est la question, évidemment le sens n'est pas le même. Le rôle de l'avocat peut-être ici, et celui du juge, c'est sans doute d'éclairer autrement la vérité des faits tels qu'ils sont soumis à un tribunal ou à une cour. Je parlerai du pénal qui est la seule matière qu'aujourd'hui je pratique de manière à peu près régulière. Le rôle du juge est peut-être justement, lui, de mettre la virgule au bon endroit et on se rend bien compte que sur la même phrase et sur le même fait, le jugement peut être totalement différent suivant la façon dont les choses sont présentées. Je crois que l'intervention de Portia dans Shylock montre bien ce que la vie peut devoir à l'ingéniosité d'un interlocuteur, ici l'avocat, puisqu'effectivement le rôle de Portia c'est celui de l'avocat dans Le Marchand de Venise, mais on voit aussi très bien comment à partir d'une même donnée brute, eh bien on peut la façonner différemment pour obtenir finalement tout à fait autre chose. Alors, un avocat sans juge, ça n'est pas grand-chose. Un juge peut exister sans avocat, mais je ne suis pas sûr que la justice lui survive. Alors, couple infernal. J'ai peu de culture sur l'enfer et pas tellement de prédisposition à en parler. Mais par contre, couple pathologique, peut-être, plutôt d'ailleurs, ce serait ni avec toi ni sans toi. Ce serait sûrement cela plutôt. Alors la question après, c'est un peu comme... là aussi dans Shakespeare, est-ce que c'est du Roméo et Juliette, c'est-à-dire que c'est une belle histoire mais qui finit mal? Est-ce que c'est plutôt Johnny fais-moi mal ou est-ce que c'est plutôt une histoire d'amour raisonnée et en essayant ensuite de faire comme dans les contes de fées que finalement ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, je ne sais pas. Alors cela dit, sur le couple et dans le cadre du juge, dans matière pénale, réduire... l'audience, parce que je vais parler de l'audience, je ne vais pas parler de la mise en état, je ne vais pas parler du procès pénal à la mise en état. Réduire l'audience à un couple, c'est déjà sans doute une erreur, parce que le ménage ici, il est à 3 ou à 4, et cette fois de manière parfaitement digne, puisque vous avez à la fois l'avocat de la partie civile qui ne défend pas les mêmes intérêts que celui de l'avocat de la défense, et vous avez aussi, bien sûr, le parquet qui soutient l'accusation. Alors, je ne vais pas ici parler du ministère public, et je vais me centrer simplement sur le juge. Le vrai juge, c'est le juge du siège, par définition. Le parquet étant la voie de l'accusation. Celle de la société, on peut en discuter, mais celle de l'accusation. Avec deux références, peut-être immédiates, parce que je sais qu'il y a ici un certain nombre de gens de l'EDA. Alors, je ne parlerai pas du parquet, non pas parce que Il n'est pas une autorité judiciaire. La Cour européenne nous le dit. Vous connaissez tous l'arrêt Medvedev contre France de décembre 2008. Ça n'est pas une autorité judiciaire parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Medvedev, c'est ces marins ukrainiens qui ont été arrêtés sur un cargo au large du Cap-Vert et qui sont restés 13 jours avant d'arriver en rade de Brest, donc détenus sur la seule intervention d'un parquet. On a estimé qu'il y avait une violation de l'article 5, c'est-à-dire de l'accès au juge dans la CEDH. C'est pas ça qui va fonder les choses. Je préférerais d'ailleurs me souvenir du parquet français, qui est quand même une spécificité française, en vous rappelant peut-être l'article qui est l'article 33 du Code de procédure pénale, qui est intéressant sur le plan du moment où un parquetier peut apprécier un dossier. Il y a des réquisitions écrites dans certains dossiers, mais quand il développe ces réquisitions orales, il y a une très jolie formule dans l'article 33, c'est que le procureur de la République développe ces réquisitions orales. Et il le dit, suivant cette formule que je vais reprendre pour ne pas la trahir, il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Ce qui est assez joli, qu'il croit convenables au bien de la justice, c'est dire que l'accusation en matière pénale, et de plus en plus l'accusation moderne, c'est bien plus qu'un accusateur public, à condition que le parquet veuille s'emparer de ce rôle-là. Et souvent, il le fait, et c'est mieux pour le débat, parce que c'est mieux d'avoir une accusation raisonnée. Ça permet d'aller vers une élaboration de la justice beaucoup plus complète, et ça facilite finalement la tâche du juge du siège. Le rôle des avocats et du ministère public étant finalement de faciliter la prise de décision par un certain nombre de moyens, tels que recueil de témoignages, tout ce que l'on veut, citation de témoins, peu importe, mais de faciliter cela. Je vais me centrer, moi, sur le juge du siège et l'avocat. Mais je voudrais d'abord insister sur un mot. Garapon, Antoine Garapon, auquel on doit beaucoup dans la théorisation de ce qu'est le rôle du magistrat et de ce qu'est la justice, on lui doit beaucoup parce qu'avant, finalement, c'était assez peu théorisé, assez paradoxalement. Garapon, dans un ouvrage qui doit être un peu avant les années 2000, 97, 98, je ne sais plus, qui s'appelle « Bien juger », tout un programme, Garapon va commencer son livre en citant le doyen Carbonnier, que les uns et les autres on connaît bien, qui est effectivement un grand civiliste, et en citant Carbonnier sur l'importance du lieu. On ne juge pas n'importe où. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé. On est parfois, notamment dans la région parisienne, parfois un peu surpris par les lieux de justice, mais on ne juge pas n'importe où, c'est important. Et Carbonnier disait sur ce terrain-là, pour l'espace judiciaire, il disait « Tout lieu d'audience dans les sociétés archaïques est une ère sacrée et comme retranchée du monde ordinaire. » C'est très vrai. C'est si vrai que, par exemple, une des traditions du barreau, tradition qui a un sens, qui n'est pas seulement une tradition comme ça dépourvue de tout rapport à la réalité, dans une des traditions, on ne se change pas, on n'enlève pas sa robe, on ne la revêt pas dans une salle d'audience. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu particulier et qui nous rappelle à chacun où nous sommes. Et c'est une façon aussi, pour tous les intervenants, de se souvenir de l'endroit où ils sont. Et si je dis cela, c'est parce que je vais enchaîner finalement sur le juge et sur ce qu'est un juge. Le juge, ici, est par définition, alors on connaît tous, ici je citais Garapon, dans le livre « Bien jugé », il commence par mettre en exergue cette fable de La Fontaine que les uns et les autres nous connaissons bien, c'est l'âne portant des reliques. Et Garapon va mettre ça en avant. Vous savez, c'est le Baudet qui porte des reliques, et puis les gens l'acclament, et le Baudet pense que c'est pour lui. Et quelqu'un lui dit « Mais pas du tout, c'est évidemment pas pour toi, c'est l'idole qu'on acclame. » Et là aussi, pour citer exactement, très exactement la phrase, « Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Ceci pour dire que, dans la personne du juge, ça n'est pas du tout irrespectueux, cette comparaison de Garapon. Pardon, on va mettre comme ça. Moi, après. Bon, ça n'est pas du tout irrespectueux dans la bouche de Garapon. D'abord parce que l'âne est un animal sympathique, au service des autres. Ensuite, parce que la même comparaison peut valoir pour l'avocat. C'est la robe qui fait l'avocat, en réalité, dans l'espace judiciaire. Et ensuite, parce que, dans la personne du juge, ce que l'on respecte, c'est la fonction du juge, puisque le juge rend ses décisions au nom du peuple français, qui est évidemment ce qui est souverain dans une démocratie. C'est au nom du peuple que les décisions se prennent. Donc le respect dû au juge, ce n'est pas un respect dû de manière là aussi déconnectée de toute réalité, c'est un respect qui, démocratiquement, est absolument essentiel si on veut que l'œuvre de justice soit partagée par tous, comprise par tous, et acceptée par tous, y compris par ceux qui ne sont pas partis. La justice, on sait bien, elle se donne aussi à voir. Elle se rend et elle se donne aussi à voir. Sur ce respect, concernant ce qu'est l'avocat, il est tout à fait évident ici que, concernant ce qui est du juge, le respect ici est un respect qui n'est pas un respect vertical. C'est-à-dire que la relation entre l'avocat et le juge est une relation horizontale. C'est une relation d'homme ou de femme libre, à femme ou homme libre. Chacun ici est un acteur aussi respectable que l'autre, et chacun contribue à ce qui est l'essentiel d'une audience, c'est-à-dire à la construction de la vérité judiciaire. Le véritable devoir d'un avocat, c'est certainement jamais d'être servile vis-à-vis d'un juge, ou pire encore, de le flatter. Ça, c'est probablement la pire injure qu'on puisse faire à celui qu'on a en face de soi, que de penser qu'il va rendre une décision que l'on souhaite favorable, parce qu'il va être flatté dans les instants les plus bas de l'homme. C'est-à-dire, évidemment, on aime tous être flatté, on préfère tous qu'on dise qu'on est intelligent plutôt qu'être un imbécile. Mais c'est pas comme ça que les choses se font, et heureusement, et c'est pas la conception judiciaire. On ne parvient pas à une décision judiciaire de qualité sans, évidemment, recourir à ce qui fait la qualité du débat judiciaire. À ce sujet-là, et sur cette qualité, la définition du juge est importante. Là encore, chacun ici, ou presque, en tout cas des professionnels, connaissent la définition de Carbonnier du juge. C'est entre les litigants, on place un tiers qui doute et qui sort du doute par une décision. C'est ce tiers neutre qu'est le juge. Je voudrais, à cet effet d'ailleurs, peut-être citer, j'avais prévu ça un peu en venant un peu vite ici, mais citer Pascal à propos de toute autre chose, c'est de la guerre et de ce qu'il disait sur la guerre et sur, finalement, qui la décide. Quand il est question de juger si on doit faire la guerre et tuer tant d'hommes, condamner tant d'Espagnols à la mort, c'est un homme seul qui en juge, et encore intéressé. Ce devrait être un tiers indifférent. Finalement, le tiers indifférent, au bon sens du terme, vous voyez, là, on en parle pour la guerre, dans Pascal, c'est-à-dire que les choses ne sont pas nouvelles, c'est aussi pareil pour la justice. C'est vraiment ce tiers indifférent. C'est très important, la distance du juge, et c'est très important aussi que le juge lui-même fasse l'effort avant l'audience d'être à distance, lui aussi, de ce qu'il peut penser avant de rentrer en audience. Le bon juge, c'est celui qui s'est évolué. Le bon avocat, c'est aussi celui qui s'est évolué en fonction de l'audience. Alors, dans ce tiers et dans ce qu'est la justice, il y a là aussi, j'y pensais avant de venir et en entendant Shakespeare, évidemment, ça me le revenait en mémoire. De manière antique, vous avez un très bon exemple de ce qu'est finalement une œuvre de justice, c'est les trois pièces, les Euménides d'Eschyle. Dans Eschyle, vous savez, c'est l'histoire des Atrides. Vous avez, dans un premier temps, Clytemnestre qui voit, hélas, revenir Agamemnon, son mari, qu'elle n'attendait plus. Elle avait déjà un amant, on la comprend. Et surtout, je vous rappelle qu'Agamemnon avait, entre autres, fait sacrifier Iphigénie, ce qui avait un peu énervé sa mère. Et s'étant un peu énervé, elle l'a évidemment fait supprimer quand il est revenu. Là-dessus, première pièce. Deuxième pièce, vengeance d'Oreste armée par certains dieux et par les Erinies. Et Oreste, qui est pris dans un conflit de loyauté, va quand même exécuter la volonté des dieux et va effectivement s'arranger pour que sa mère passe aussi de vie à trépas. Tout ça est parfait, ça se déroule tous les jours, mais enfin, c'est pas mal. Et on s'attend à la troisième phase, qui est celle de la vengeance. Alors, ce que je vous dis, c'est pas très original, ça a souvent été dit, ça a souvent été commenté, mais ça mérite d'être rappelé, parce que la phase de la vengeance, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est là qu'intervient l'œuvre de justice, et que ça nous donne des leçons aussi. Athéna va rentrer dans le débat, et va créer un tribunal qui sera valable pour tout le temps, hein, c'est l'aréopage qui sera valable pour tout le temps, et Athéna va faire une première chose, elle va écouter. Elle va écouter les gens. Ça, dans la justice, mis à part dans les cours d'assises, où dans les cours d'assises, il y a quand même du temps, écouter les gens, c'est le premier office du juge et c'est le premier office de l'avocat. Faire en sorte qu'on écoute celui qui est là. Faire en sorte qu'on l'écoute. Faire en sorte qu'on prenne du temps. Dans la société où nous vivons, le temps, c'est un luxe. Vous savez, les avocats que nous sommes, Gérard Kenafou est à côté, il le sait très bien. On reçoit parfois les gens trop vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pressé, parce qu'il y a des audiences. Et c'est souvent, en prenant un peu le temps, parfois sur le pas de la porte, que la personne vous dit, avant de partir, au fait, maître, je voulais vous dire que... Et c'est là qu'on a le plus souvent ce qui va nous être utile dans la manière de plaider. et de présenter l'homme qui est là, parce que finalement, les juges n'en connaissent que l'encre des procès-verbaux. On va à ce moment-là dire, voilà, quel est l'homme, voilà de quoi on parle, voilà de qui on parle, et non plus de quoi on parle, voilà de qui on parle. C'est important de dire de qui on parle. Quand Primo Levi va faire ce fameux livre que nous connaissons tous sur les camps de concentration, le titre français, c'est « Si c'est un homme ». En italien, en fait, c'est « questo è un uomo ». Ça veut dire si cela est un homme. Cela, c'est pas la même chose. Et le « cela », c'est pas la même chose. Ça veut beaucoup dire dans Primo Levi. C'est-à-dire qu'il est à ce moment-là plus rien. Il n'est même plus un homme. Et justement, nous, on doit passer de faire effacer ce « cela » et le présenter au juge. Et Athéna, elle écoute. Elle va faire en sorte que Oreste plaide son acquittement, que les Erini disent qu'il faut absolument le condamner à mort parce que sinon il n'y a plus de châtiment et plus de respect des lois. Bon, tout ça va se dérouler comme on souhaiterait aussi que ça se déroule. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat, une vraie écoute. Et vous savez, le temps, la longueur, encore une fois, c'est essentiel. Et l'avocat doit faire en sorte que ce temps soit pris. Et s'il faut aller au conflit avec le juge pour ça, il faut aller au conflit. Parce que avoir de bonnes relations avec les juges, c'est important. Mais avoir de bonnes décisions, c'est encore mieux. Il ne faut pas hésiter, s'il le faut, de manière courtoise, heureusement, mais aller au conflit, parce que le seul vrai conflit qui vaille normalement, c'est le dossier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être parasité par autre chose. La seule chose qui compte, c'est d'obtenir une bonne décision pour le dossier. Ce n'est pas forcément une décision qui vous convienne en tant qu'avocat, parce que moi, les décisions qui me conviennent, c'est celles les plus favorables à mes clients, par définition. Sauf qu'en audience, ce n'est plus mes clients, ce sont des justiciables. Et sauf que l'avocat, il n'est pas du côté du client, il est aux côtés du client. Sauf en matière politique, ce qui est une autre affaire, où on est à ce moment-là dans les affaires politiques claires, on est effectivement aux côtés parce qu'il y a un autre débat qui peut se dérouler. Mais enfin, les affaires politiques sont quand même extrêmement rares, et il n'y en a quasiment plus, très peu aujourd'hui, sauf dans certaines régions, pour certains combats, ou dans certains combats syndicaux et d'autres que les uns et les autres on peut connaître. Mais c'est ici essentiel, et j'aime assez, moi, me souvenir d'Eschyle et de ses tragédies pour ça, parce que c'est important. Et deuxième temps, Athéna, que va-t-elle faire? Elle va rappeler un principe qui est essentiel, et que l'avocat doit aussi rappeler. Parce que, finalement, vous parlez de ce qui se passe tous les jours, mais de ce que l'avocat doit rappeler. Athéna va dire aux gens, attendez, si on vote la culpabilité, jeton noir, jeton blanc. S'il y a le même nombre de voix, il sera acquitté. C'est extraordinairement moderne, parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'illustration de ce que le doute bénéficie à l'accusé. Le rôle de l'avocat, c'est de rappeler au juge qui le sait, mais dans la chaleur d'une audience, dans l'émotion d'une audience, dans la pression que peut mettre la presse parfois dans les audiences, on a besoin d'être là et de le rappeler, de dire « attention, il y a des principes ». Ces principes, ils doivent être appliqués à celui qui est ici. Et le doute est un principe absolument sacré. De la même manière qu'on doit rappeler, notamment aux assises, que voter blanc, c'est une voix acquise à l'accusé. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, vous votez blanc, c'est une voix considérée comme acquise à l'accusé, ce qui est tout à fait important. Et c'est là que le rapport de confiance entre l'avocat et le juge est fort, parce que le juge doit avoir confiance en l'avocat qui est en face, notamment aux assises, parce que si vous voulez, aux assises, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais autant en correctionnel, les juges ont le dossier. Mais aux assises, vous avez des jurés qui, eux, ne connaissent pas le dossier. Ils ne l'ont pas. Ils ne le connaissent que parce que les intervenants leur en disent. Si vous plaidez en dernier que vous êtes parfaitement déloyal, vous pouvez tronquer des PV. C'est inacceptable. Parfois, vous le faites involontairement, mais c'est inacceptable. L'éthique de la parole est essentielle, et cette éthique, elle est nécessaire pour le juge. De même que moi, avocat, je dois avoir confiance dans le juge. Qui me juge. Vous savez, on a tous connu, comme avocat, des juges en qui on n'avait pas confiance. Vous savez, la justice, à ce moment-là, elle n'était respectée que formellement. Et elle était une vague institution, et je dois dire que la vertu dont elle porte le nom s'était éloignée encore plus, si vous voulez. On en a connu, comme ça. Bon. C'est heureusement quelque chose, je le dis, qui n'est pas fréquent, et qu'il devient de moins en moins, parce que de plus en plus, chacun est conscient de ses responsabilités. Alors, quel rôle aussi de l'avocat? C'est rappeler des choses simples. Vous savez, l'avocat, il n'est pas obligatoire, sauf aux assises, finalement. Mais si quelqu'un le demande, il doit l'avoir. Alors, d'abord, les droits de la défense, c'est une valeur constitutionnelle. Il y a des décisions qui le rappellent. Il doit y en avoir une de 77, 78, peu importe, ou 76, je ne sais plus, qui dit que c'est une valeur constitutionnelle. Ensuite, elle est dans l'article 6 de la CEDH, Et vous avez notamment l'article 6.3 de la CEDH sur le procès équitable, hein, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui décline tous les droits, et notamment le droit à un avocat. L'État doit fournir un avocat, et l'avocat doit avoir le temps. Et c'est là aussi qu'un avocat est important, parce que notamment dans les procédures d'urgence, ces procédures qui sont des procédures scélérates, par définition, enfin, si vous voulez, la comparution immédiate, enfin, c'est des choses qui ne devraient pas exister dans une démocratie. Bon, ça continue à exister. Alors chacun fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que les magistrats, les avocats, tout le monde essaie de faire ce qu'il peut pour que ce soit digne. En tout cas, à Lyon. Ailleurs, parfois, j'ai eu plus de réserves sur ce que j'ai vu. Mais nous, les gens, parce qu'on essaie quand même de se regarder dans une... Après, finalement, de se dire, bon, on essaie d'être à peu près digne, on tente de faire que ça se passe bien. Mais dans les comparutions immédiates, il est bien certain que le temps vous trahit et que vous êtes là en permanence. Alors moi, maintenant, mais moi, quand j'ai commencé, on était là en permanence à se battre avec les policiers parce qu'on voulait avoir le dossier, parce qu'on voulait avoir le temps, parce qu'on voulait avoir le temps de se battre. C'était nécessaire. On en est là. Et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Je voudrais simplement ici, pour vous dire ce qu'on peut attendre d'un juge aussi, rappeler des choses qui empruntent à l'imagerie d'Épinal, mais c'est toujours intéressant. Vous avez ce jugement très connu du bon juge Magnot. Est-ce que finalement, nous souhaitons avoir des bons juges Magnot? Je ne suis pas certain, parce que nous devons respecter la loi. Le juge Magnot, là, s'est-il affranchi de la loi? Vous connaissez ce célèbre jugement. Je vais en lire quand même deux, trois éléments, parce que j'avais pris le jugement. C'est pas mal de le relire. Attendu que la prévenue... a à sa charge un enfant de 2 ans pour lequel personne ne lui vient en aide et que depuis un certain temps elle est sans travail, malgré ses recherches pour s'en procurer. Qu'elle est bien notée dans la commune et passe pour laborieuse et bonne mère. J'adore ça, moi. Qu'en ce moment, elle n'a pour toute ressource que le pain de 2 kilos et les 2 livres de viande que lui délivre chaque semaine le bureau de bienfaisance de Charlie, pour elle, sa mère et son enfant. Attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P, elle n'avait pas d'argent et que les denrées qu'elle avait reçues étaient épuisées depuis 36 heures. Que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison. Qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est, comme pour Louise Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d'amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion du bien et du mal, qu'un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qu'il commet n'agit que poussé par l'impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre notre constitution physique. Je passe sur la faim. Que si certains états pathologiques, notamment l'état de grossesse, sont souvent permis de relaxer comme irresponsables les auteurs de vols accomplis sans nécessité, cette irresponsabilité doit à plus forte raison être admise en faveur de ceux qui n'ont agi que sous l'irrésistible impulsion de la faim. Et c'est là qu'on va relaxer. C'est 1898, c'est une application en réalité de ce qu'on appelle l'état de nécessité, mais c'est aussi le rôle de l'avocat parfois, de dire au juge qu'on peut aussi, à certains moments, tenter de s'éloigner de la loi. Ce qui ne veut pas dire la méconnaître ou la violer, mais tenter de s'en éloigner. Dans ce barreau, on a souvent connu, notamment dans les années 85-90, des défenses d'étrangers. À l'époque où l'étranger, comme aujourd'hui, c'était celui qu'il convenait de chasser le plus loin possible, parce que finalement, il n'avait rien à faire chez nous. C'est à peu près ce qui était le sens des choses. Je rappellerai qu'à Lyon, les gens en séjour irrégulier étaient envoyés en prison. Ils étaient envoyés en prison jusqu'aux années 90. Il a fallu que, par quelques avocats du barreau de Lyon, des défenses collectives soient systématisées, pour des gens qui n'avaient pas un centime, de manière à faire que on persuade finalement le parquet grâce à des défenses qui, du coup, dévoraient du temps tant qu'on en pouvait, parce que je peux vous dire que ça paralysait absolument toutes les audiences, à coup d'exception d'illégalité, de tout ce qu'on voulait, de questions dans tous les sens, que le parquet se rende compte que finalement ces gens n'avaient rien à faire en prison, puisque au bout d'un moment, ils étaient finalement condamnés à une interdiction du territoire. Pourquoi les mettre 2 mois en prison, parce qu'il y avait un nombre considérable d'étrangers. Cette défense, qui était une défense pour pousser à une application différente de la loi, a fait qu'au bout de quelques années, chacun s'est rendu à la raison, en disant qu'effectivement, les avocats lyonnais qui avaient fait ça avaient raison. Et beaucoup de juges les avaient soutenus dès le départ, en se rendant compte que c'était évidemment ça. Et ça, ça renvoie finalement à Magnot. À un moment donné, la loi, eh bien, elle est aussi ce qu'on en fait. Alors, elle est aussi ce qu'on en fait. Et là aussi, je renverrai là aussi une pensée de Pascal, qui est toujours une pensée riche. Je suis... souvent éloigné de Pascal pour des raisons peut-être de croyance, mais vous avez cette phrase qui est toujours intéressante. La justice est ce qui est établi. Et ainsi, toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes. sans être examinées, puisqu'elles sont établies. C'est toute l'ironie de Pascal qui se manifeste ici, parce qu'il dit qu'effectivement, on respecte la loi parce qu'elle est loi, mais donc elles sont formidables, les lois. Et Pascal, d'ailleurs, vous le savez, va avoir cette formule ensuite en disant « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », et en disant « plaisante justice que celle qu'une rivière borne », ou à peu près, c'est à peu près le mot employé, en disant que finalement, les fameuses lois naturelles, à quelques méridiens près, toute la jurisprudence s'effondre, parce qu'elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et ça, le rôle de l'avocat, c'est aussi ça. C'est-à-dire de rappeler à la relativité de ce qu'est la loi dans certains moments et de rappeler à la mesure dans d'autres, y compris dans les instants qui sont toujours des instants difficiles que traversent les époques, que traversent les sociétés, que traversent les nations. Voilà, c'est peut-être ce que l'on peut dire sur ce terrain-là, mais je vais interrompre mon propos de manière à laisser Gérard Kenafou s'exprimer aussi en disant simplement ceci, ce sera le dernier mot. Entre juge et avocat, il y a une complémentarité, encore une fois, parce que l'un sans l'autre, ça n'est pas pensable. Et surtout parce que le rôle de l'avocat, c'est de rappeler, quel que soit le dossier, que dans chaque homme, c'est l'idée même d'humanité qu'on juge. Et le rôle du juge, c'est à chaque jugement, à chaque décision, quelle que soit la matière, pénale ou civile, de s'en souvenir, c'est toujours l'idée même d'humanité qu'on juge, parce que c'est toujours ça qui est en jeu dans une instance, malgré la fatigue du quotidien, malgré les problèmes, notamment pour les avocats, de portefeuille, de dossiers, de secrétaires qui ne sont pas là de ce qu'on veut, c'est toujours cette idée-là qui est en jeu. La justice, c'est quelque chose qui fonde absolument l'idée même de ce qu'est une démocratie. C'est-à-dire, sans justice, il ne peut pas y avoir de véritable démocratie. Et sans démocratie, on me permettra de penser que il y a sûrement des tribunaux, mais ils ne doivent pas beaucoup ressembler à la conception moderne, celle que nous avons depuis un certain nombre de siècles. La modernité, c'est pas forcément aujourd'hui, de ce que doit être la justice.
Eh bien, merci. À une heure qui peut s'avancer, je crois, dans ce qui était initialement prévu, je vais prendre la parole et en écoutant Maître Luciani, je me disais, il y a quelquefois des situations qui sont inversées parce que on demande quelquefois, le juge dit à l'avocat, écoutez, maître, soyez bref. Eh bien, aujourd'hui, je crois que je vais m'infliger moi-même du fait de l'éloquence de Maître Luciani, cette injonction, soyez bref, monsieur le juge. Monsieur le juge, oui, parce que je me suis posé la même question. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le magistrat? Ou est-ce qu'on voit le juge au sens juge du siège? Donc moi, je prends les choses simplement, puisqu'on a bien voulu dire que j'avais une expérience de juge. Je précise que et les collègues dans la salle qui ont une expérience plus importante que moi dans la justice. Mais moi, j'ai été essentiellement juge du siège, civiliste. Je n'ai pas été pénaliste. Donc ce que je vois du juge aujourd'hui, et ce que je peux dire et ce dont je peux témoigner, c'est de cette activité d'un juge du quotidien. Pas nécessairement l'ampleur des assises ou autre, mais quelqu'un du quotidien. Et je voudrais faire attention à l'heure d'abord et repartir sur la notion de couple. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui est important. On parle de famille judiciaire. On parle de couple, on peut aussi parler de famille. Et la famille judiciaire, c'est quelque chose qui existe, je vais presque dire encore. Parce que l'évolution du barreau et aussi de la magistrature fait peut-être que certaines règles de vie commune s'effacent petit à petit. Mais la famille judiciaire, elle est importante et à travers deux, trois remarques très concrètes, avocat et juge portent la même robe. Enfin, en tout cas, on les voit comme tels. Et il y a quelque chose, quand je me suis interrogé à une époque où j'enseignais l'histoire du droit, l'origine du mot « robe » par rapport à notre activité, à notre juriste. Le mot « robe » trouve son origine dans une racine commune à l'allemand et à l'anglais, « to rob »,« rauben », qui signifie « vol »,« pillage », et qui a donné du reste en ancien français le mot de « robe » au sens de « butin », et qui a donné « dérober ». Parce que dérober, c'est pas simplement faire comme un de vos confrères de l'ancienne époque avait dévoilé, friné pour séduire les juges. Là, c'est dérober au sens de voler. Et par glissement de sens, il a signifié donc le vêtement dont les voleurs dépouillent leurs victimes. Et à compter du XVIe siècle seulement, il a désigné le costume des gens de justice, et par métonymie, c'est ainsi que la profession est devenue ce qu'on a appelé les Robins. Voilà un raccourci simplement étymologique qui raconte l'histoire. Autre curiosité, les avocats et les juges ont des toques. C'est commun à deux. Vous voyez que je m'éloigne un peu de considérations philosophiques, mais je le fais à dessein, pour essayer de voir les symboles. Ils ont des toques, ils ne les portent plus. Le mot toque, du reste, pour les avocats, était là où ils déposaient leur courrier. Du reste, maintenant, les boîtes aux lettres des avocats continuent à s'appeler des toques. Mais la toque a un sens. Il y a quelques années, j'étais à une audience de la cour d'appel. Arrive à l'audience une jeune femme. Alors, je prends des précautions parce qu'ayant déjà raconté l'anecdote, elle avait été en contresens. Portant un voile sur la tête, mais je veux dire, elle avait un foulard. C'est plus proche du carré Hermès que du voile qui vient immédiatement à l'esprit. Donc elle vient avec son carré sur la tête. Et là, le président de la cour d'appel, homme sévère, lui dit « Maître, il est inadmissible qu'on se présente comme ça devant une juridiction. » Elle était un peu ennuyée. Il y avait un membre du conseil de l'ordre qui était là, qui dit « Ne vous inquiétez pas. » Il l'a amenée vers le vestiaire. Il lui a donné une toque. Et elle est revenue avec une toque sur la tête. Parce que ce qui est particulier dans la toque et ce que ça symbolise, c'est l'indépendance de l'avocat à l'audience. À telle enseigne qu'à l'époque où il y avait des avoués encore et des avocats, lorsque les avocats lisaient les conclusions, ils enlevaient leur toque et lorsqu'ils plaidaient, ils la remettaient. Voilà, voilà en quoi le symbole peut toucher aussi à la réalité de l'exercice professionnel. Et puis, soyons plus sérieux, ce qu'ont en commun les avocats et les magistrats, c'est le secret. C'est très important. Le secret professionnel de l'avocat et puis le secret des délibérations, le secret de l'instruction pour le magistrat. Mais il y a plus. Il y a quelque chose qui est assez méconnu et sur laquelle je veux attirer l'attention. C'est ce qu'on appelle la foi du palais. Qu'est-ce que c'est la foi du palais? Eh bien, c'est tout simplement un système de relations entre magistrat et avocat qui permet de se faire des confidences, qui permet de se dire des choses qui ne ressortent pas particulièrement du secret professionnel stricto sensu, mais qui permettent de faire avancer les dossiers, voire même de les résoudre, dans un climat de confiance. Alors le secret s'impose, la confiance se choisit, la foi du palais, c'est ça. Peut-être que certains d'entre vous qui fréquentent les palais régulièrement pourraient me dire « la foi du palais, c'est quelque chose qui disparaît », mais personnellement, je crois que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui symbolise bien le rapport du juge aussi et de l'avocat. La foi du palais, naturellement, s'exerce également à l'intérieur de chaque profession. Et puis, enfin, il y a le serment aussi. Le serment, il est quand même curieux que deux professions aient un serment différent, alors que, je le précise, lorsque un tribunal n'est pas suffisamment composé et qu'il manque un magistrat, un avocat peut venir siéger à la place du magistrat qui manque. Et il délibérera tout à fait régulièrement. Il n'y a aucun problème. C'est un tribunal régulièrement constitué. Et l'avocat, lorsqu'il est appelé ainsi, ne va pas prêter le serment du juge, évidemment. Il a son propre serment. Et les deux serments sont quand même un peu différents, puisque l'avocat, lui, prête serment d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité depuis 1982 et humanité, et laisser tomber de côté le respect de l'État et de la paix publique qui était antérieurement à 1982 dans le serment, ce qui réduisait un petit peu la fonction. Mais le magistrat, ou en tant que magistrat, j'ai prêté serment, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. C'est toute l'étendue, et ça l'a été longtemps, de l'éthique du magistrat, de sa déontologie, parce que c'est vrai qu'entre les deux professions, les règles éthiques et déontologiques ont évolué différemment. Du côté de la magistrature, c'est surtout plus tardivement que sont venues les réflexions sur l'éthique. Non pas que la magistrature n'avait pas d'éthique, au contraire. La magistrature de l'Ancien Régime était véritablement une fonction quasi régalienne, qui avait son éthique très forte. Mais tout simplement, l'évolution de la prise en considération de la justice, la mise en cause de la responsabilité, a obligé à une réflexion nouvelle sur la déontologie du juge. Et depuis 2003, une commission a été instituée pour y réfléchir. Les choses avancent à grands pas. Et là, on voit une différence entre les deux professions. Voilà. Alors, je vais terminer quand même pour laisser place à un peu de discussion en disant simplement, pour rebondir sur la justice et son apparence. Dans les vertus du juge, j'en prendrai une, simplement, c'est la dignité. Il y en a d'autres, bien sûr, on n'a pas le temps. La dignité, c'est simplement une manière d'être pour le juge qui fasse comprendre que sa fonction dépasse sa personne. Il m'est arrivé quelquefois, comme magistrat, que des gens qui étaient en face de moi m'interpellent en me disant « Mais monsieur le juge, mettez-vous à ma place, qu'est-ce que vous feriez, vous ?» Je répondais « Moi, je porte une robe. Je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne peux pas vous dire ce que je ferais. Je porte une robe parce que je représente une fonction qui est de juger. » Et cette difficulté pour le juge à incarner la notion de justice à travers lui-même, ses propres préjugés, ses propres craintes, c'est véritablement sans doute ce qui est de plus difficile à faire comprendre et à vivre soi-même. Voilà donc ce que je ne dirai plus. Simplement, je terminerai, puisqu'il faut terminer au moins par une citation. C'est une citation de Victor Hugo qui m'a toujours plu. « Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Au-dessus de la balance, il y a la lyre. »